Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Nos mémoires, trop sélectives, ont tendance parfois à associer certains hommes politiques à un seul événement ou à une seule date de notre histoire. Il en est ainsi de Paul Reynaud, dont on retient le passage à la tête du gouvernement français en pleine débâcle, les 21 et 22 mars 1940, en tant que président du Conseil succédant à Édouard Daladier. Paul Reynaud forme en effet un gouvernement d'union nationale. Devant la Chambre, il déclare « La France est engagée dans la guerre totale. Par le fait même, l'enjeu de cette guerre totale est un enjeu total. Vaincre, c'est tout sauver. Succomber, c'est perdre tout. » Il démissionnera moins de 3 mois plus tard. Paul Reynaud, bien évidemment, comme tous ces oubliés de nos mémoires, a bien eu une vie avant et après 1940, député pendant plus de 30 ans, plusieurs fois ministre. Cette vie peu connue n'en fut pas moins riche et je vous propose aujourd'hui de découvrir un Paul Reynaud inconnu. Ses origines, naturellement, mais aussi et surtout son action politique qu'il inaugure à la veille de la Première Guerre mondiale. Comme nous allons le voir, il fut un personnage incontournable de l'entre-deux-guerres, cette période peu abordée par l'historiographie et qui couvre pourtant les conséquences politiques et économiques de la Grande Guerre et surtout, les origines du plus grand conflit de tous les temps. Penser les plaies de la guerre, obtenir réparation de l'Allemagne, payer ses dettes aux États-Unis, soutenir une politique économique dans un contexte de crise à la fin des années 20 et au début des années 30, éviter un autre conflit tout en préparant la défense de la France. Tel fut le quotidien de Paul Reynaud dans la période essentielle de sa vie sur le plan politique, l'entre-deux-guerres. Thibaut Tellier, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes docteur en histoire, maître de conférences à l'Université Lille 3, enseignant, spécialiste de l'histoire politique et sociale du XXe siècle. Alors vous connaissez Paul Reynaud, vous avez déjà travaillé au cours de votre thèse sur ce sujet, sur plus exactement la contribution de Paul Reynaud au maintien de la puissance française. Et vous avez aussi écrit une biographie, vous en avez tiré de cette thèse une biographie de Paul Reynaud parue chez Fayard qui a reçu le prix de la biographie décernée par l'Académie française. Comment êtes-vous arrivé à Paul Reynaud, Thibaut Tellier ?
Alors j'y suis arrivé, je vais dire, de deux manières. La première, par goût de l'histoire politique, j'ai eu la chance de suivre les enseignements de Jean-François Sirinelli, grand spécialiste s'il en faut de l'histoire politique et qui enseignait à Lille 3. Donc depuis finalement le début de mes années universitaires, j'ai suivi ses cours et je dirais que presque naturellement, je me suis inscrit avec lui lorsqu'il s'agissait de réaliser une maîtrise. Et puis plus spécifiquement concernant Paul Reynaud, eh bien je pense pouvoir dire que c'est un peu le hasard qui m'a conduit vers Paul Reynaud, car mon projet initial était quelque peu différent. Il s'agissait au départ de comprendre comment la droite française, qui avait totalement disparu du paysage politique français en 1945, on n'ose même plus prononcer le mot de droite, comment cette droite se recompose et finalement revient dans le jeu politique français officiellement en 1948. J'ai donc engagé un DEA sur cette question et puis s'est posé le problème des sources, car la droite en 45, c'est une droite totalement éclatée, en petits partis, voire parfois en groupuscules, et cet éparpillement n'a pas toujours laissé des traces archivistiques satisfaisantes pour conduire un travail de recherche. Et donc finalement, je suis arrivé à m'intéresser à des hommes politiques plutôt classés à droite à la Libération, et qui eux-mêmes avaient connu quelques difficultés pour se réinsérer dans le jeu politique français, et Paul Reynaud en faisait partie. Il a été député après la Deuxième Guerre mondiale, député du Nord, département qui est le mien, et donc de fil en aiguille, mais je me suis intéressé à Paul Reynaud, et puis le DEA s'est conclu sur Paul Reynaud et la recomposition des droites en France.
D'où votre travail de thèse. Alors, c'est un indépendant en politique, hein, c'est le sous-titre d'ailleurs de la biographie, Paul Reynaud, un indépendant en politique, 1878-1960. Indépendant, homme paradoxal, nous allons y revenir, fait-il figure d'exception dans le monde politique de la Troisième République ? Et là, je me concentre uniquement de la Troisième République à dessein, puisque une des grandes colonnes de votre thèse, c'est de dire au fond que l'essentiel de la vie politique de Paul Reynaud, on l'attribue à cette période de la Troisième République.
Alors, je pense que la réponse est non. Dans la mesure où il n'est pas une exception, tout simplement parce qu'il y a d'autres personnalités qui s'exonèrent aussi des logiques partisanes des partis politiques. Je pense à Aristide Briand, par exemple, qu'on a peut-être quelques difficultés aussi à classer et qui, en tout cas, ne s'est pas laissé enfermer dans un parti politique. Plus proche de Paul Reynaud, on pourrait citer également Mandel, on pourrait citer André Tardieu. On n'a pas le même rapport au parti politique que l'on peut avoir aujourd'hui. Donc, c'est peut-être vrai pour les partis de gauche. À droite, c'est beaucoup plus éclaté. Et donc, de ce point de vue-là, effectivement, le cas de Paul Reynaud ne m'est pas apparu véritablement comme une exception, en tout cas, de ce point de vue-là.
Alors, venons-en directement à ses origines, si vous le voulez bien, Thibaut Tellier. Reynaud est originaire des Alpes de Haute-Provence, qu'on appelle aujourd'hui les Alpes de Haute-Provence. Quelles sont ses origines familiales ?
Alors, Paul Reynaud est un bas-alpin, comme on disait avant la Deuxième Guerre mondiale, et plus précisément, il est natif de Barcelonnette. Alors je pense que là, il faut quand même dire un mot de Barcelonnette, parce que Barcelonnette, c'est le foyer d'une population donc locale qui, pour une partie d'entre elles, a fait fortune au Mexique, qu'on appelait d'ailleurs les Barcelonnettes, donc des gens qui étaient très pauvres, hein, parce que cette vallée de l'Ubaye est une vallée pauvre au 19e, et puis un jour, des marchands partent au Mexique et reviennent fortune faite. Bon. Et c'est le cas de la famille de Paul Reynaud. Le père de Paul Reynaud, Alexandre, part lui-même au Mexique, fait fortune et revient, fait construire sa maison, qui est d'ailleurs aujourd'hui le musée de la ville de Barcelonnette, ce qui fait que Paul Reynaud évolue dans un cadre bourgeois, mais très, très marqué aussi. Il y a une identité basalpine et je pense que cette identité basalpine, il va la conserver tout au long de sa vie.
La famille monte à Paris.
La famille monte à Paris très rapidement, ce qui fait qu'effectivement il est natif des Basses Alpes, mais il est, on va dire, parisien puisqu'il fait ses études avec ses frères et sœurs, il fait ses études à Paris.
Alors sa jeunesse est marquée sur le plan de la formation par l'Angleterre. Il ira plusieurs fois en Angleterre, c'est bien cela ?
Oui, alors c'est effectivement quelque chose de tout à fait intéressant chez Paul Reynaud, je vais dire quasiment de sa naissance jusqu'à sa mort, à savoir le goût des voyages et le goût d'aller voir sur place comment les choses évoluent.
Son père lui offre un tour du monde.
Oui, en 1907, quelque chose d'assez extraordinaire, son père lui offre un tour du monde.
Alors qu'il a 29 ans, c'est bien ça ?
Oui, approximativement. Donc il part faire le tour du monde, donc il ira aux États-Unis, il passe au Mexique parce que les affaires familiales y sont, il ira au Japon, on a d'ailleurs gardé, la famille a gardé des carnets très émouvants avec une écriture très fine, relatant ses voyages. Paul Reynaud parle couramment anglais, ce qui est aussi un avantage, on le verra peut-être par la suite. Et c'est quelqu'un donc qui, jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'en 65, 66 même, va voyager. Donc il est vraiment au contact du monde entier.
L'Angleterre est importante hein, dans sa pensée politique future. Et c'est parce qu'il sera marqué à cette époque par ses voyages.
Oui, très certainement. Il se rend en Angleterre alors qu'il a effectivement à peine une vingtaine d'années et il va rester très, très, très amoureux, je pense qu'on peut le dire comme ça, très amoureux de la Grande-Bretagne et en particulier de son système parlementaire. Finalement, la démocratie parlementaire anglaise aura son attachement jusqu'à la fin de sa vie.
Quelle profession choisit-il ?
Alors, visiblement, je dis visiblement parce que j'ai pas eu en main toutes les archives qui auraient permis de répondre à votre question, mais visiblement, il hésite. Hein, il hésite un peu puisque là aussi, c'est une originalité. Et il a un double cursus puisque son père lui demande de faire HEC. Dans l'optique qu'il puisse reprendre les affaires familiales. Et en même temps, lui est plus attiré vers le droit. Donc il a un double cursus tout à fait intéressant et finalement, après son retour de son tour du monde, eh bien, il choisira définitivement la carrière d'avocat comme beaucoup de jeunes gens à cette époque.
C'est un bon orateur ?
Ah, c'est un très bon orateur, un débatteur, comme on pourrait dire à l'anglaise. Et ça lui vaudra, en particulier en 1911, d'être lauréat de la conférence du stage, qui est un concours d'éloquence des avocats. Et bon, il y a toute une histoire autour du discours qu'il devait prononcer. Et c'est sa première immersion, on va dire, dans le domaine public. Et de ce fait-là, effectivement, il fait partie de ces jeunes gens brillants qui vont se distinguer effectivement par l'art oratoire. D'ailleurs, il y a un jeune homme dans les années 30 qui écoutera un jour Paul Reynaud parler dans une réunion politique à Paris, et dans ses mémoires lui-même dira qu'il a été vivement impressionné par les qualités d'orateur de Paul Reynaud et que ça lui a donné un peu aussi le goût de la politique. Et ce jeune homme dans les années 30, c'est Edgar Faure.
Alors, merveilleux orateur, ça vous le soulignez à plusieurs reprises dans votre ouvrage. Est-ce que c'est un personnage qui avait beaucoup de charisme, parce qu'il était desservi par une petite taille?
Oui, alors il semblerait qu'on puisse ne pas être forcément très grand physiquement et faire des carrières politiques brillantes, semble-t-il.
Il arrive à s'imposer à son auditoire, c'est important.
Oui, non, tout à fait.
Parce qu'il sera moqué, l'Action française
oui,
se moquera
tout à fait,
évidemment.
Tout à fait. On le représente très souvent avec sa petite taille, d'ailleurs parfois, en particulier à l'extrême droite, de manière tout à fait désobligeante. Mais c'est certain qu'il a une volonté de s'affirmer physiquement. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont on n'a plus l'habitude aujourd'hui, c'est-à-dire que les réunions publiques qui sont celles de l'entre-deux-guerres sont des réunions très physiques. Je vous donnerai un seul exemple. Au moment où il va tenter sa chance en 1926 à Paris dans le 2e arrondissement, eh bien, il n'hésite pas avec son colistier Henri de Kérilis à venir dans une réunion communiste pour essayer de prendre la parole. Les communistes lui ayant dit avant, écoutez, on ne vous garantit pas votre sécurité, si vous venez, ça sera vraiment à vos risques et périls. Mais il y va. En 45, alors qu'il a quand même près de 70 ans, il va aussi faire des réunions assez houleuses à Dunkerque. Il a en face de lui beaucoup de gens de la CGT, du Parti communiste. On éteint la lumière, il reçoit des boulons. Bon, une situation assez physique, mais il n'a jamais eu cette peur, finalement, de ne pas affronter son public. Donc là, il y a vraiment, me semble-t-il, une qualité physique, mais qui est desservie par un talent oratoire. C'est-à-dire que bien souvent chez Reynaud, il entre dans une salle plutôt hostile et il en ressort avec une salle plutôt conciliante.
Alors venons-en au début politique. À quelle date peut-on dire qu'il s'engage réellement dans la politique ?
Alors, il y a, comme là aussi traditionnellement, un cursus politique, puisque avant 1914, il est élu conseiller général de Barcelonnette, où il succède à un membre de sa famille. Bon, donc c'est plutôt, on va dire, un combat plutôt gagné d'avance. Donc c'est pas vraiment, me semble-t-il, le premier acte. Par contre, ce qui est très surprenant, c'est qu'en 1914, il se présente dans l'entre-deux-tours aux élections législatives, venant remplacer à brûle-pourpoint le candidat modéré qui s'est littéralement enfui. Donc il est battu très logiquement, mais pour autant c'est vraiment la première fois où il fait campagne. Bon, maintenant je pense que si on veut vraiment dater son entrée dans la vie politique, c'est évidemment son élection comme député du Bloc National en 1919.
Alors quelle va être cette législature? C'est ce que je vous propose de voir, Thibaut Tellier, après cette première pause.
Nicolas Poussin et Orphée, la collection privée de Goethe, la gravure de Louis-René Berge, les méditations sur la beauté de François Cheng, les tableaux de Bernard Buffet, de Velikovitch, les œuvres de Pierre-Yves Trémoy, mais aussi le monstrueux dans l'art, ou Bosch et les tentations de Saint-Antoine, Canal Académie vous propose une série d'émissions sur l'art et de réflexions sur la beauté.
Nous reprenons le cours de notre émission. Je reçois Thibaut Tellier, auteur d'une biographie primée par l'Académie française, Paul Reynaud, un indépendant en politique, un livre paru chez Fayard. Alors nous avons évoqué ses débuts en politique, vous les datez 1919. Il y a peut-être une date avant que vous présentez dans votre livre, l'année 1917, quand il travaille dans les services de la présidence du Conseil, puisqu'il fait la guerre au début et il va être transféré, j'allais dire, dans des tâches plus administratives.
Oui, alors effectivement, il est comme beaucoup de sa génération, d'abord un combattant du feu, et puis atteint de pleurésie, il quitte le front, et effectivement, en 1917, il se retrouve au cabinet de Paul Painlevé, ce qui lui donne effectivement déjà une première expérience de l'appareil d'État. C'est-à-dire que là, il va commencer à toucher finalement la réalité, la réalité politique. Mais on voit là aussi finalement tout l'intérêt d'avoir des réseaux familiaux. Puisqu'en réalité, bon, pour une chose que je ne vais peut-être pas détailler, il a réussi par l'entremise de gens de sa famille à entrer donc au cabinet Painlevé.
Qui va lui donner au fond le virus de la politique ? C'est un virus personnel, puisque vous le disiez, ses inclinations familiales étaient portées davantage vers le Mexique et vers les affaires. On a l'impression qu'il fait exception.
Non, pas tout à fait, parce qu'en réalité, son père était lui-même conseiller général, lui qui lui succède. Et il a aussi, donc, du côté de sa mère, donc la famille Gassier, un certain nombre de gens qui sont investis dans la politique locale. Mais là, on se situe, on va dire, sur le registre de la notabilité locale, c'est-à-dire que bien souvent, effectivement, dans les villages en particulier, lorsqu'on a, on va dire, une sorte d'assise économique et financière, eh bien, souvent, ça va de pair avec une responsabilité politique locale. Là où Paul Reynaud va quelque peu innover, c'est que très rapidement, sa carrière va prendre une ampleur nationale.
Alors que fait, j'allais dire un jeune, mais il a plus de 40 ans tout de même, que fait un jeune élu en 1919 alors qu'il intègre la fameuse chambre Bleu Horizon ?
Mais écoutez, alors effectivement, je voudrais juste revenir sur un point que vous venez d'évoquer, sur le fait qu'il est plus tout à fait jeune, si on peut dire, dans la mesure où Paul Reynaud est né en 1878. Effectivement, il ne fait pas partie des gens qui ont 30 ans, 35 ans et qui deviennent parlementaires, comme il ne deviendra ministre qu'à à peine 50 ans. Bon, donc là-dessus, je pense qu'il faut remettre les choses en perspective. Il n'empêche que lorsque vous êtes donc député, pour la première fois, c'est pas n'importe quelle chambre, évidemment, c'est quand même la chambre Bleu Horizon, c'est la chambre du Bloc National, donc celle de la victoire. Et Paul Reynaud a laissé des pages tout à fait émouvantes, notamment sur ces députés de l'Alsace et de la Lorraine qui font leur entrée de manière magistrale dans l'hémicycle. Eh bien, quand vous êtes député pour la première fois en 1919, il y a finalement deux possibilités. Première possibilité, c'est de faire votre travail d'élu local, c'est-à-dire que vous relayez les dossiers de votre circonscription. Et puis, il y a une deuxième manière, ce qui n'empêche pas de faire la première, évidemment, c'est de vous intéresser aux questions, on va dire, nationales, et en particulier la question qui va mobiliser les énergies dans ces années d'après-guerre, fameuse question
des dettes allemandes.
Voilà, des dettes allemandes. Et de ce point de vue-là, Paul Reynaud n'hésite absolument pas, il entre bille en tête dans le débat, n'hésitant pas à interpeller à plusieurs reprises le président du Conseil, Raymond Poincaré, ce qui va faire de lui une sorte, entre guillemets, de vedette de la presse nationale.
Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais justement, arrêtons-nous quand même sur Poincaré. Il y a cette fameuse question de la Roure, l'occupation de la Roure. Poincaré décide l'occupation de la Roure. Donc, à la fin de l'année 1922, il occupe en janvier 23. Quelle est la position de Paul Reynaud par rapport à cette politique qui dit que l'Allemagne doit payer absolument, et si elle ne paie pas, eh bien, on doit occuper ses terres?
Alors, on va retrouver ici un trait de...
Parce que ce qu'on n'a pas dit, c'est que bon, c'est un homme de droite, bien évidemment, et Poincaré, la Chambre Bleu Horizon, est un homme de droite. Est-ce que lui, il s'oppose en tant qu'homme de droite à cette politique, et qu'en cela, il rejoindrait plutôt la gauche, ou bien au contraire, est-ce qu'il la soutient ?
La question de l'occupation de la Roure et la question du remboursement des dettes allemandes, c'est, si on peut dire ça comme ça, le début des problèmes de l'historien qui travaille sur Paul Reynaud. C'est-à-dire qu'en fait, très très vite, dès 1920, dès 1921, Paul Reynaud, en quelque sorte, brouille les cartes. C'est-à-dire qu'effectivement, il appartient à la majorité du Bloc National. Il a été élu sur un programme de Bloc National. Or, très rapidement, eh bien, on va se rendre compte que Paul Reynaud peut s'exonérer de cette logique et qu'il peut prendre des positions qui ne le mettent pas hors de son camp, mais qui le font prendre quand même des positions qui pourraient éventuellement intéresser les socialistes. Et c'est là que je dis que c'est un peu difficile pour l'historien, c'est que finalement, dès le départ, on a du mal à le saisir. Et sur cette question, effectivement, de l'occupation de la Ruhr, bon, Paul Reynaud, on en parlait tout à l'heure, se rend en Allemagne tous les ans. Il se rend en Allemagne tous les ans, ce qui fait qu'il a une acuité du problème allemand que n'ont pas forcément tous les députés. Il a aussi ce bagage d'une connaissance financière très fine qui fait qu'il a évolué. Et ça aussi, chez Paul Reynaud, c'est tout à fait caractéristique de son action politique. C'est-à-dire que c'est un homme qui a des convictions, mais qui sait aussi les adapter en fonction de la réalité des choses. Et sur l'Allemagne, c'est très net.
Il veut retirer, à vous lire, le côté humiliant en fait du traité de Versailles.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que quand vous lisez sa profession de foi aux élections de 1919, c'est relativement simple. C'est l'Allemagne doit payer, les Boches ont été vaincus. Donc on est sur un discours très, très, très dur, mais qui est celui des élections. Et puis au fur et à mesure, effectivement, l'idée de Paul Reynaud, c'est d'être pragmatique, de ne pas se laisser enfermer dans une doctrine, et de savoir adapter effectivement en fonction des besoins de la situation le discours. Et il propose notamment, au lieu d'exiger des remboursements en monnaie, que ça soit des remboursements en nature, avec notamment la question de pouvoir faire venir des Allemands faire les réparations en France, ce qui ne sera pas forcément d'ailleurs bien accepté, certains soulignant que les Allemands, on les a déjà vus pendant 4 ans, on n'a pas forcément envie de les revoir sur le territoire national. Mais il y a une originalité du discours de Paul Reynaud qui fait que dès 1920, il est connu de la presse nationale. Mmh. Il est connu de la presse nationale pour des positions qui ne sont pas forcément les positions orthodoxes du bloc national.
Alors, autre paradoxe, parce que c'est un personnage très complexe et ce qui le rend vraiment très intéressant, c'est la question du traité de Locarno en 1925 qui consacre la sécurité collective et une reconnaissance mutuelle franco-allemande. Quelle est sa position vis-à-vis de ce traité de Locarno qui est signé par Briand, qui est plutôt défendu par la gauche?
Alors là aussi, il a une position, je ne vais pas dire hésitante, mais c'est quelqu'un qui essaye de se projeter dans l'avenir. Mmh. C'est quelqu'un qui essaye de se projeter dans l'avenir et il fait notamment, il écrit un article dans la revue hebdomadaire qui s'appelle Damiens à Locarno, en parlant du traité d'Amiens signé par Napoléon Bonaparte, et il se montre intéressé par la démarche, mais manifestement, il n'y croit guère. Cette question de la sécurité collective le laisse quelque peu perplexe, et ce qu'il dit, c'est que si sécurité collective il doit y avoir, il ne faut pas perdre de vue non plus la question de l'armement. Mmh. Et de ce point de vue-là, il se montre peut-être moins optimiste, même très certainement, moins optimiste que Briand, par exemple. Mmh.
Ce qui est quand même extraordinaire, parce que beaucoup d'hommes politiques plaçaient leur confiance en Locarno, alors que lui, bon, ben, le traité d'Amiens, c'est une comparaison avec le traité d'Amiens. 2 ans après le traité d'Amiens, la guerre reprend. C'est-à-dire que l'idée d'une reprise de la guerre avec l'Allemagne, lui, est familière. Il y pense.
On va dire qu'elle ne lui est pas étrangère.
D'accord.
Dans la mesure où, effectivement, je pense que de ce point de vue-là, on peut le rapprocher avec Georges Mandel.
Oui, oui, oui.
Une acuité chez ces deux hommes, d'ailleurs, qu'on va retrouver à divers moments de notre histoire. L'idée étant de dire, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Paul Reynaud, toujours par ses voyages en Allemagne, sait très bien qu'il y a des associations d'anciens combattants qui n'ont pas fait leur deuil du Reich. Mmh. Et il reste vigilant. Il reste tout à fait vigilant et il n'en oublie pas effectivement l'impératif, certes de sécurité collective, mais de sécurité nationale.
Mmh. Alors, autre point sur lequel il se révèle, j'allais dire anticonformiste, même si vous n'utilisez pas systématiquement ce terme, c'est la question des dettes des États-Unis, parce qu'il y a la dette de l'Allemagne vis-à-vis de la France, mais il y a la dette de la France vis-à-vis des États-Unis. Et là, il joue sa carrière politique. En tous les cas, vous le présentez comme tel.
Oui, alors c'est l'un des nombreux moments de son histoire où il va jouer sa carrière politique, puisque finalement, Paul Reynaud, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, n'a jamais eu un fief à lui. Il n'a jamais eu un fief à lui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais été véritablement assuré de sa réélection. Par une ou deux élections près.
Il est battu en 1924, voilà, réélu quelques années plus tard.
Voilà, il va être élu député de Paris en 1928 après une première tentative en 26. Il sera réélu en 32, mais en 32, c'est la victoire de la gauche. Bon, finalement, il s'en sort bien. En 36, c'est épouvantable sa réélection. Et même après-guerre, finalement, ça reste quand même quelque peu difficile pour lui, de par ses positions. Alors, sur la question des dettes, effectivement, ça va être véritablement la première attaque contre Paul Reynaud. dans la mesure où, et en particulier à l'extrême droite, on l'accuse d'être inféodé au monde anglo-saxon, d'être inféodé aux intérêts américains. Et de ce point de vue-là, évidemment, l'extrême droite, Maurras et Daudet en tête, montre qu'il y a un lien très fort entre les intérêts familiaux au Mexique et l'attachement que peut avoir Paul Reynaud pour les États-Unis. Donc il apparaît comme une sorte de traître à son propre pays, n'hésitant pas à vendre son pays pour plaire aux Américains.
On l'accusera également de traîtrise à l'occasion d'un de ses nombreux voyages en Allemagne où il rencontrera une association d'anciens combattants. Enfin, deux combattants, d'anciens combattants.
Oui, dans les casques d'acier. Oui, alors effectivement, on est en 1929. C'est un peu dans ce bouillonnement-là des cercles d'anciens combattants qu'Adolf Hitler est en train de travailler consciencieusement. Et il se fait que Paul Reynaud a rencontré des anciens combattants et... il a peut-être pas été très prudent sur cette question. Et donc, toujours est-il que ça renforce l'idée selon laquelle, décidément, Paul Reynaud n'est pas un homme fiable. Il peut se vendre aux intérêts américains en 1928. Il peut se vendre à l'ancien ennemi de la France, l'Allemagne. Et de ce point de vue-là, il faut quand même souligner que pour la fameuse rencontre là, avec les casques d'acier, ça lui vaudra quand même de ne pas entrer au gouvernement en 1929. Il faudra qu'il attende encore quelques mois que l'affaire se tasse.
Alors, il y a une belle phrase de Grasset, hein, l'éditeur, que vous citez. Je me permets de la lire. Le jour, c'est une lettre que Grasset écrit à Reynaud. Le jour où un homme d'État n'aura pas peur de réhabiliter le mot droite et de ne point entendre par là le piétinement ou la réaction, mais tout au contraire les plus grandes audaces sociales et les plus larges vues extérieures, eh bien ce jour-là, le pays sera sauvé. Et cet homme, je crois bien, mon cher Reynaud, que ce peut être vous. C'est évidemment très 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 flatteur, mais on a l'impression que cette phrase, au fond, on pourrait très bien l'appliquer en ce début de XXe siècle, cette droite qui ne se retrouve pas ou qui a du mal à se définir.
Oui, alors c'est effectivement une phrase certes élogieuse pour Paul Reynaud, mais c'est aussi une phrase qu'il faut remettre dans son contexte. C'est-à-dire que Paul Reynaud est membre éminent de l'Alliance démocratique. Alors l'Alliance démocratique, c'est une sorte de ventre mou de la droite modérée française dans laquelle on vient plus chercher une investiture pour les élections qu'un véritable engagement politique. Et de ce point de vue-là, il y a deux hommes aux analyses quelque peu divergente au sein de l'Alliance, à savoir Paul Reynaud et Pierre-Étienne Flandin. Et tous les deux n'ont pas la même conception de la tactique politique à conduire, à savoir, je résume de manière un peu caricaturale, mais pour Flandin, c'est l'idée de la concentration, c'est-à-dire qu'il faut organiser un grand rassemblement dans lequel l'Alliance démocratique a des partenaires, alors que chez Reynaud, il y a quand même un peu déjà cette idée du bipartisme, l'idée que effectivement il y a une droite, il y a une gauche et qu'il faut que la droite elle ait quand même son, comme on dit aujourd'hui, son logiciel de référence. Donc de ce point de vue-là, on le voit encore une fois très attiré finalement par le modèle anglo-saxon, à savoir une gauche, une droite, des conservateurs ou pas. Et de ce point de vue-là, ça peut d'ailleurs nous ramener à l'actualité et le débat d'un centre existant politiquement dans notre vie.
Alors il va vivre des crises politiques, notamment les crises politiques internes, celle du 6 février 34. C'est ce que je vous propose de voir, Thibaut Tellier, après cette seconde pause. À tout de suite. Vous êtes à l'écoute de Canal Académie, l'émission Un jour dans l'histoire reçoit Thibaut Tellier, auteur d'une biographie Paul Reynaud, un indépendant en politique, un ouvrage primé par l'Académie française. Il s'agit du prix de la biographie. Alors, nous avons évoqué ces années 20, venons-en aux années 30. Les années 1930, 1932, il entre dans les ministères, aux finances, aux colonies, à la justice. J'en viens, si vous me permettez, à l'année 1932, qui est une année charnière. C'est une année charnière et il est au fond pour une rupture dans trois domaines, la monnaie, l'armée et la diplomatie.
Oui, alors effectivement, on est sur les trois grands domaines d'intervention de Paul Reynaud, mais qui vont s'échelonner. Qui vont s'échelonner tout au long des années 30, dans la mesure où en 1932, si on fait un arrêt sur image à la veille des élections législatives, Paul Reynaud est désormais un homme qui compte en France. On vient de le voir avec la citation de Bernard Grasset. Il est vice-président du Conseil dans le gouvernement André Tardieu. Donc c'est quelqu'un qui est en vue, si on peut dire ça comme ça, et qui doit être appelé théoriquement dans les mois à venir à diriger lui-même un gouvernement. Bien. Et puis, le plan ne va pas se dérouler comme prévu, dans la mesure où Tardieu perd les élections, en tout cas le camp de Tardieu perd les élections, donc ce sont les radicaux qui reviennent au pouvoir, ce qui évidemment amène quelque peu le projet de Paul Reynaud à être différé. Et de ce point de vue-là, il y a une période très intéressante entre les élections législatives de 1932 et 1934, interstice dans laquelle Paul Reynaud se pose la question de la réforme de l'État. C'est une période très intéressante parce que effectivement, Paul Reynaud part du constat qu'il faut réformer. Il faut réformer la France, effectivement, du point de vue de la défense, du point de vue de la monnaie. Et il se pose un certain nombre de questions. Et puis, le constat qu'il fait, c'est qu'on ne parvient pas en France, à conduire de manière satisfaisante une réforme de l'État, ce qui, de mon point de vue, l'amènera à prendre des positions peut-être plus tranchées à partir de 1934.
Là encore, c'est un discours très actuel, au fond.
Ah bah, oui, le discours de la rupture, le discours de la réforme de l'État est quelque chose de tout à fait contemporain, avec cette idée qu'en France, on ne parvient jamais à réformer l'État en profondeur. Et effectivement, c'est quelque chose sur lequel on peut réfléchir tout au long du XXe siècle.
Alors, il avait pensé, vous les présenter, à une réforme même du parlementarisme. C'est dans les pages consacrées à son élection après 1919. Mais là, nous sommes au début des années 30. Et le début des années 30, eh bien, c'est l'arrivée d'Hitler au pouvoir en janvier 33. En novembre 32, Blum avait déclaré qu'Hitler était exclu de l'espérance du pouvoir. De son côté, Paul Reynaud, est-ce qu'il a compris, j'allais dire avant les autres, le danger que pouvait représenter l'hitlérisme ?
Je n'en suis pas certain. Autant ça a pu être établi concernant Georges Mandel, autant pour Reynaud, il n'y a pas véritablement de prise de position officielle immédiate après l'arrivée d'Hitler à la chancellerie, donc en janvier 33, mais qui le savait réellement. En revanche, ce qui est certain, c'est que dès la fin 34 et surtout 1935, il perçoit très nettement le danger hitlérien. Mais il faut quand même rappeler que en 1934, il est effectivement très investi dans le combat pour la dévaluation.
Je vous pose cette question parce que nous le disions tout à l'heure, sur le Carnot, il ne croyait pas en la politique de la sécurité collective, dont le fait d'avoir un Hitler au pouvoir, dont les sentiments nationalistes étaient connus, cela pouvait lui mettre la puce à l'oreille.
Oui, alors ce qui est certain, c'est qu'au cours des années 1934, si on peut dire, au cours de cette décennie, en tout cas pour les années qu'il a pu passer au Parlement, il est plus investi sur les questions nationales. C'est-à-dire qu'effectivement, on a l'impression qu'à partir de 24, il se tourne plus vers les problèmes nationaux et qu'il reviendra vers les questions internationales à partir de 1935. C'est-à-dire finalement, au moment où tout le monde a compris, ou plus ou moins, parce qu'effectivement tout le monde ne l'a pas compris, que la question de la sécurité collective est devenue désormais un leurre.
Alors, il y a un discours prononcé en tant que vice-président de l'Alliance où il dit « il y a l'Allemagne qui reprend sa politique traditionnelle avec cette circonstance aggravante qu'étant au premier rang des pays industriels d'Europe, elle est frappée par la restriction des marchés lointains et par la concurrence de l'extrême Asie, ce qui la rendra chaque jour plus âpre dans l'expression de ce qu'elle appelle son besoin d'espace, le fameux Lebensraum ». Cette idée d'une Allemagne, de la reprise de la politique traditionnelle de l'Allemagne, on est un peu chez Bainville, non ?
Oui, effectivement. Effectivement, il y a un peu cette conception. Je ne suis pas certain que Paul Reynaud ait saisi toute la complexité, au départ du moins, de l'hitlérisme. C'est-à-dire que finalement, on a quand même l'impression, dans un certain nombre de discours, qu'il replace effectivement Hitler dans une longue perspective de l'expansion allemande. Et effectivement, par exemple, ses prises de position, j'en cite une ou deux, concernant les lois de Nuremberg, par exemple, mais on voit que là aussi, c'est pas forcément la première chose qui retient son attention.
Alors, il y a un point très important pour la suite des événements, c'est sa rencontre avec le colonel de Gaulle, et il épouse visiblement ses conceptions.
Alors, il épouse ses conceptions. Alors, effectivement, bon, on est à peu près certain de la première rencontre via Gaston Paleski, qui est alors secrétaire de Paul Reynaud et qui fera la carrière politique qu'on lui connaît aux côtés du général de Gaulle. Alors, il faut quand même dire deux mots sur le choix. C'est que, premièrement, de Gaulle n'a pas que choisi Paul Reynaud. C'est-à-dire qu'il avait, entre guillemets, frappé à d'autres portes, notamment celle de Marcel Déa. Il avait effectivement aussi eu des contacts, notamment avec l'entourage de Léon Blum, pour faire porter son projet. Alors, pourquoi Paul Reynaud ? Nous sommes en 1935, enfin là, la rencontre, c'est décembre 34. Donc, Paul Reynaud est en plein dans son combat pour la dévaluation. C'est un homme qui est quelque peu haï d'un certain nombre de parlementaires. On peut quand même imaginer que ce qui a retenu l'attention de Gaulle, c'est justement le caractère fonceur du député Paul Reynaud, qui n'hésite pas à s'engager dans des combats s'il les croit recevables. Et puis, Paul Reynaud est aussi quelqu'un qui s'est intéressé aux questions militaires dans les années 20, qui sont quelque peu détachées. Il n'est pas membre de la commission de l'armée à la Chambre des députés. Et de ce point de vue-là, ça va le faire revenir donc, sur ces questions de défense nationale et de politique étrangère.
Mais alors, il n'arrive pas à imposer cette idée, en tous les cas, ses conceptions. À chaque fois qu'il essaie en fait de présenter quelque chose, ça n'aboutit pas en fait.
Alors, ça a été la grande question de mon travail. La question de mon travail était de dire au fond, Paul Reynaud pense juste, mais il pense avec qui ? Puisque à partir de 1930, il est non pas écarté de l'Alliance démocratique, mais Flandin s'installe aux commandes de l'Alliance et va progressivement étendre son influence, ce qui fait que très rapidement, Reynaud va s'en détacher. D'ailleurs, le combat pour la dévaluation marque une rupture avec l'Alliance, puisque c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire, où Paul Reynaud, député de l'Alliance démocratique, est plus ou moins à l'origine de la chute du gouvernement Flandin, lui-même issu de l'Alliance démocratique. Bon. Donc, de ce point de vue-là, effectivement, il n'a pas de troupes derrière lui. Il n'a pas de troupes derrière lui. Il est une sorte de député isolé dans le Parlement. Ce qui fait que lorsqu'il essaye de faire passer un projet de loi, eh bien son projet de loi ne passe pas, puisqu'il n'a pas une majorité parlementaire sur laquelle il peut compter. Donc, effectivement, c'est une voie qui compte dans l'opinion publique, mais ce n'est pas forcément une voix qui compte lorsqu'il s'agit d'énumérer tous les députés qui soutiennent sa proposition. Et ça se voit très bien effectivement sur son dépôt de proposition de loi le 15 mars 1935, avec quand même cette citation extraordinaire du général Morin qui préside la commission et qui annote le projet de loi de Paul Reynaud en disant « contraire à la logique et à l'histoire ». Qui est quand même assez pathétique, puisque nous sommes en mars 1935, à quelques mois de l'occupation de la Rhénanie par les troupes allemandes, et la proposition de Paul Reynaud n'était pas non plus une proposition forcenée. Il demandait la mise en œuvre d'un corps cuirassé de 100 000 hommes. Et dernière chose que je voulais dire là-dessus, parce que ça mènera peut-être d'autres commentaires tout à l'heure, parmi les détracteurs, il y a le général Weygand, le maréchal Pétain.
Alors, il y a, vous avez une belle expression pour définir ce que vous venez de présenter, c'est qu'il y a une distance entre le verbe, et vous dites que le verbe est juste, et l'action.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est à la fois la richesse et la difficulté pour Paul Reynaud. Et c'est ce qui va être au cœur du problème en 1940. C'est-à-dire que c'est un homme qui, effectivement, a un passé très riche du point de vue de l'appréciation du danger allemand. Mais pour autant, il n'a pas de majorité pour le soutenir, puisque finalement, en quelque sorte, il paye son paradoxe le 21 mars 1940, à savoir que son camp, la droite modérée, vote contre lui et que ce sont les socialistes qui le soutiennent. Il n'y a pas de gouvernement Reynaud en mars 40 si Léon Blum ne donne pas une consigne à ses collègues.
Alors, revenons-en à la chronologie. Il y a un jeu diplomatique très complexe, les années 1934, 35, 36, entre l'Angleterre, la France, l'Italie et l'Allemagne. Quelle est la position de Paul Reynaud sur ces alliances? Nous avons vu tout à l'heure qu'il rejetait la politique de la sécurité collective. Il se situe dans une position, j'allais dire, plus traditionnelle, plus westphalienne d'équilibre.
Oui, tout à fait. Alors, Paul Reynaud connaît l'histoire de France. Paul Reynaud connaît l'histoire de France. Il connaît l'histoire européenne également. Et il sait effectivement qu'il ne faut pas s'aliéner plusieurs adversaires en même temps. Et donc, il va y avoir là aussi une position très pragmatique, à savoir, premièrement, qu'il vaut mieux, évidemment, non pas s'accorder les bonnes grâces de l'URSS, c'est pas ça, mais en tout cas une sorte quand même de neutralité bienveillante vis-à-vis de l'URSS, sachant que le potentiel militaire de l'URSS est quand même très important et que peut-être un jour, si d'aventure on se retrouvait opposé à l'Allemagne, il serait peut-être intéressant d'avoir des jalons du côté de l'Union soviétique, ce qui ne l'exonère pas de ses critiques envers, évidemment, le régime communiste.
Mais ce qu'il y a de paradoxal, c'est qu'il est pour cette alliance avec les soviétiques, mais d'un autre côté, il prévoit, il pense à une union germano-soviétique qui donc aura lieu. Il n'y a pas un paradoxe entre justement ces deux idées, être pour cette alliance alors que précisément la confiance qu'il accorde à cette alliance, eh bien, elle est malgré tout assez faible.
Oui, mais parce qu'on est toujours dans une approche très pragmatique. C'est-à-dire qu'on laisse de côté les idéaux, mais effectivement, je pense que c'est à ça que vous faites référence, un article de la revue hebdomadaire en 1924, dans lequel il dit que peut-être un jour, l'Allemagne et l'Union soviétique, la Russie, se tendront la main par-dessus le cadavre ensanglanté de la Pologne. Ce qui, en 1924, est quand même bien pensé par rapport à ce qui se passera ensuite à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, effectivement, mais l'idée, c'est quand même qu'il faut se garder une neutralité du point de vue de l'Union soviétique, mais qu'il faut tout faire pour rapprocher la France et la Grande-Bretagne. C'est-à-dire, finalement...
C'est une constante de sa pensée politique.
Ah oui, alors là, effectivement, c'est une constante politique. On pourrait dire quasiment... peut-être pas de sa naissance, en tout cas de sa naissance politique, jusqu'à sa mort, puisque la rupture avec De Gaulle après la Seconde Guerre mondiale se fera justement sur la politique de mise à distance de la politique étrangère du général De Gaulle vis-à-vis des États-Unis, notamment.
Alors, la question italienne est majeure dans ces années 34, 35, 36. Quelle est sa position ?
Alors, la position de Paul Reynaud, c'est encore le pragmatisme, je suis désolé de me répéter, mais de ce point de vue-là, il n'y a pas une condamnation ferme et définitive envers le fascisme, envers la politique de Mussolini, même si j'ai eu du mal quand même à les retrouver parce qu'elles sont quand même relativement rares, mais il y a quand même des allusions à la politique qui est conduite par Benito Mussolini. Mais c'est quand même là aussi s'attacher, essayer de détacher plutôt l'Italie de l'Allemagne. C'est-à-dire que Paul Reynaud perçoit assez rapidement, à partir de 1935-36, que Mussolini et Hitler sont plus ou moins en train d'esquisser un rapprochement. Et de ce point de vue-là, l'idée, c'est bien de garder l'Italie dans le giron des ex-alliés de la Première Guerre mondiale. Et tout faire pour ne pas que Mussolini rejoigne une future politique de l'axe.
Thibaut Tellier, nous nous retrouvons après cette dernière pause.
Canal Académie vous invite à découvrir René Lalique et ses bijoux d'exception 1890-1912. C'est le titre d'une exposition que l'on pouvait admirer au Musée du Luxembourg à Paris en été 2007 et ensuite à Berlin au Bruegel Museum. Canal Académie vous propose deux émissions, l'une en français, l'autre en allemand. Entrons dans le monde féerique des créations des bijoux d'exception du grand maître joaillier et du maître verrier de l'Art Nouveau, René Lalique, maintenant sur Canal Académie.
Nous entamons la dernière partie de notre émission consacrée à Paul Reynaud, à la suite de la sortie de la biographie. Paul Reynaud, un indépendant politique, dont l'auteur est Thibaut Tellier. Thibaut Tellier qui a reçu donc le prix de la biographie de l'Académie française. Alors, nous avons évoqué le milieu des années 30, c'est cette question italienne qui est majeure, notamment avec la question éthiopienne. Venons-en, si vous le voulez bien, à la période de Munich. Vous parliez d'Henri Kérilis, qui est un de ses proches, et Kérilis est un des seuls hommes de droite à avoir voté contre Munich. Quelle est la position de Reynaud sur les accords de Munich ?
Eh bien, là, on retrouve le Paul Reynaud, membre du gouvernement. C'est-à-dire qu'après des grandes difficultés exercées au cours des années du Front populaire, une réélection très complexe pour lui, des attaques en règle de la part de l'extrême droite, une hostilité quand même logique de la part des vainqueurs des élections, en particulier les socialistes, et finalement, de fil en aiguille, lorsque Daladier retrouve les chemins du pouvoir, Daladier comprend évidemment qu'il lui faut élargir sa majorité vers la droite, et Paul Reynaud donc retrouve pour quelques mois le ministère de la Justice dans le cabinet d'Aladier avant les accords de Munich. La position de Reynaud, elle est un peu compliquée, parce que s'il n'était que député, sans doute aurait-il pris une position plus radicale, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout favorable aux accords de Munich, parce que c'est évidemment pour lui la traduction de ce qu'il n'a cessé de dire depuis quelques années, à savoir que Hitler avance patiemment mais sûrement ses pions sur l'échiquier européen. Donc ça le renforce évidemment dans l'opinion qu'il faut savoir dire non à Hitler. Il le dit depuis l'occupation de la Rhénanie en 36. En même temps, il est membre du gouvernement. Mmh. Et là aussi, il se pose un dilemme pour lui. Faut-il faire un esclandre et quitter le gouvernement, avec évidemment toujours le risque d'être marginalisé, ou faut-il rester dans le gouvernement pour peser sur les choix? C'est ce qu'il fera, puisque au lendemain des accords de Munich, Daladier a compris lui aussi que c'était un coup pour rien et que Hitler continuerait ses efforts. Donc le réarmement prend une accélération, et Paul Reynaud se voit confier le portefeuille des finances avec une mission très claire de la part d'Édouard Daladier, chef du gouvernement: préparer la France à la guerre qui s'annonce de manière inexorable, donc de mettre en place finalement des finances de guerre. Donc là, effectivement, se pose la question de l'efficacité de l'action politique. Faut-il être député et faire entendre sa voix, ou faut-il être au cœur de l'appareil d'État et peser sur les choix gouvernementaux? C'est la deuxième option qu'il va le prendre.
Oui, c'est un peu comme dans les années 1930, 31, 32, quand il était ministre des Finances, des Colonies et de la Justice. Il doit renoncer en fait à son individualisme.
Oui, avec quand même ici évidemment une tonalité beaucoup plus dramatique, puisqu'on est quasiment avant la grande catastrophe.
Alors nous arrivons au terme de cette émission. J'ai tenu vraiment à dessein à n'aborder que cette question de l'entre-deux-guerres qui est majeure dans la vie politique de Paul Reynaud, mais je pense que nos auditeurs, au fond, se posent cette question sur l'année 1940. Paul Reynaud était-il, au fond, l'homme qu'il fallait à la France alors qu'elle était en passe de perdre la guerre?
Alors, ce qui est certain, c'est que Paul Reynaud se voyait comme une sorte de nouveau Clémenceau. Bien. Pour autant, il n'a pas le cursus politique de Clémenceau, et finalement c'est un homme seul qui est investi le 22 mars 1940, et on pourrait presque dire que pour les radicaux, qui sont quand même encore la cheville ouvrière des majorités parlementaires à cette date, eh bien, l'épisode Paul Reynaud ne sera qu'un épisode de quelques jours. Il faut lire les réactions des radicaux lors de l'investiture de Paul Reynaud pour comprendre qu'ils acceptent évidemment très durement que leur champion, Édouard Daladier, soit écarté, mais qu'il ne fait pas l'ombre d'un doute que quelques jours plus tard, lorsque Paul Reynaud aura montré son incapacité à diriger la France, eh bien que Daladier reprendra reprendra le pouvoir. Un exemple parmi tant d'autres, un chef du gouvernement, alors que la France est en guerre, se voit refuser le ministère de la guerre. C'est-à-dire que Paul Reynaud ne peut pas avoir, comme il l'aurait souhaité, disposé du portefeuille de la guerre. Daladier le garde pour lui et Paul Reynaud ne doit en quelque sorte que se contenter du ministère des Affaires étrangères, ce qui est quand même bien peu lorsque la France est en guerre. Mais en 1940, le problème de Paul Reynaud, c'est qu'effectivement, il paye en quelque sorte ses années précédentes, c'est-à-dire que quelque part, on lui fait payer aussi ses grands discours, son éloquence, en lui disant bah, maintenant vous êtes au pouvoir, comment allez-vous faire? Et de ce point de vue-là, ça va être son problème numéro un. Il n'a pas de majorité pour le soutenir, d'où des crises à répétition. Certainement la plus tragique, celle du 9 mai. Le 9 mai au soir, il y a un conseil de cabinet dans lequel, une nouvelle fois, Daladier et Paul Reynaud s'affrontent au sujet du maintien en place du général Gamelin à la tête des armées françaises. Et le cabinet est démissionnaire. Quelques heures plus tard, c'est l'invasion déclenchée par Hitler. On a un cabinet démissionnaire. Donc ça montre bien que le jeu politique n'est absolument pas maîtrisé par Paul Reynaud.
Alors je me permets de faire une autre citation, c'est celle du journal Combat, un article écrit au lendemain de la mort de Paul Reynaud. Paul Reynaud, dit le journal, Paul Reynaud reste l'homme de 39-40, celui qui voyait clair sans discerner exactement les raisons profondes de sa lucidité. Il était en fait le représentant typique d'une France dont les jeux remontaient à la chambre bleu horizon, à la fois étrangement clairvoyant et atrocement aveugle, obnubilé par l'amusement politique et non par l'efficacité. Sur lui, parce qu'il survivait, se reportait toute la haine d'une époque dont il était peu ou prou le symbole. Sur lui se concentrait la risée d'une forme de république qui prospère dans le scandale et la bêtise. Alors bien évidemment, c'est une phrase très orientée. Il y a une difficulté hein, vraiment à saisir Paul Reynaud pour ses paradoxes que vous présentez tout au long de sa vie politique.
Oui, alors effectivement, bon, je pense quand même qu'on peut dire que la phrase de Combat est un peu injuste. Bon, c'est la dénégation totale de la Troisième République. Et effectivement, ça fait partie des paradoxes. Paul Reynaud, qui n'a cessé d'appeler à une République différente, une République qui soit plus pragmatique, qui soit plus opérationnelle, restera dans la mémoire collective comme l'homme de la Troisième République, l'homme des combinaisons ministérielles, alors que très franchement, il n'en a pas été l'un des principaux instigateurs. Bien. Mais ce qui est certain, c'est que, si on peut le dire comme ça, ça lui colle à la peau, hein, cet héritage de la troisième politique. Et ce qui lui colle surtout à la peau, c'est qu'il est à la fois rejeté par ses amis de la droite modérée, mais ce qui n'en fait pas forcément non plus un ennemi de ses adversaires politiques. D'où effectivement un isolement quand même relativement important.
Alors pour contrebalancer hein, cette phrase de Combat, je tiens à citer celle d'Emmanuel Baird. Son intelligence avait admirablement prévu l'épreuve à laquelle lui et la France devraient faire face, mais son caractère, son cœur n'était pas préparé aux souffrances qu'elle impliquait. Et dans ses calculs lucides, il avait omis sa répugnance à sacrifier comme à être sacrifié. Il y a toujours cette légende, là encore, de 40, qui est une légende tenace, alors qu'on ne peut pas réduire Paul Reynaud à 1940.
Oui, alors effectivement, bon, c'est pas vraiment une légende non plus, dans la mesure où il y a un certain nombre de faits avérés sur la conduite de la guerre par Paul Reynaud, mais l'ambition qui était la mienne, c'était précisément de montrer que 40, le moment où il exerce le pouvoir, est une étape de sa vie politique. Et que la période qui s'ouvre le 22 mars et qui se clôture le 16 juin s'explique aussi par un très long cheminement depuis 1919. Donc évidemment, là, un travail d'historien de remettre en perspective un épisode qui ne prend son sens que si on le remet finalement dans une perspective plus longue.
Eh bien, c'est le rôle d'un jour dans l'histoire et vous avez pu donc nous présenter cette thèse. Merci beaucoup Thibaut Tellier. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes l'auteur de la biographie Paul Reynaud, un indépendant en politique 1878-1966, un ouvrage paru dans la collection Pour une histoire du XXe siècle chez Fayard. Merci, restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau jour dans l'histoire.